RCF.
Je regarde ma montre, il est 17h, le 17-18 sur RCF France Ardennes, c'est avec Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour vous accompagner jusqu'à 18h ce mardi 11 juillet. On parlera évidemment d'un dossier chaud brûlant, celui du club sportif Sedan Ardennes. Le maire de la ville de Sedan, Didier Herbillon, sera avec nous aussi pour nous parler d'ailleurs d'un été à Sedan. Que faire? C'est sûr que vous trouverez de belles activités. Il y aura de quoi faire dans les Ardennes et ce soir on en parlera largement puisque Quentin Paul Laurent, président de l'association La Cassine en Ardennes, nous présentera le spectacle Robin des Bois. Il sera joué dès ce samedi et ce pendant un mois. Au programme de ce magazine estival, Christian Brouillen, président du département de la Marne, ça ne vous a pas échappé, il est candidat aux élections sénatoriales en septembre 2023, en septembre prochain, donc il sera notre invité. On donnera aussi des nouvelles de notre diocèse de Reims et des Ardennes avec le Pelé VTT, ça se passe actuellement, notamment Maxime Labesse est un des organisateurs, mais il n'est pas le seul, on devra avoir des jeunes également qui sont actuellement en train de pédaler, qui seront nos témoins en cette fin de magazine. Dans quelques instants, nous retrouverons Jean-François Boulanger, c'est une habitude le mardi dans Mémoire chrétienne, pour parler de Mère Teresa et de l'Inde, épisode 2, et c'est même l'épisode 3 si l'on parle de Mère Teresa. Il faut rattraper quelques séances si vous n'étiez pas avec nous les mardis précédents. Pour ça, le rendez-vous, c'est sur le site rcf.fr, rubrique réécoute, et vous recherchez Mémoire chrétienne, j'allais dire parole de jeune, mais non, ça n'a rien à voir, ça sera pour jeudi, avec Satie Dosso notamment, voilà, petit teasing. Et puis Hervé Chabot également sera notre invité pour faire un tour de l'actualité et la décrypter au micro de Jean-Pierre Benoît, ça sera aux alentours de 17h10, dans une poignée de minutes. Finalement, ça va très très vite. On commence ce mardi 11 juillet par retrouver notre chroniqueur. Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Un dernier numéro cette année, comme vous l'aviez promis, ou en tout cas qu'on dit cette année, mais cette saison radiophonique, nos auditeurs l'entendent bien, consacré à Mère Teresa. On l'a vu, on l'a découverte, ou redécouverte plutôt, à travers plusieurs symboles qui ont marqué cette personne, ce personnage en tout cas. Et Mère Teresa avec l'Inde, épisode 2, nous consacrons donc aujourd'hui cette dernière émission de cette série de Mémoire chrétienne à Mère Teresa, et plus particulièrement à la manière dont son action est aujourd'hui perçue en Inde. Vous nous aviez dit la dernière fois, Jean-François, que le personnage faisait aujourd'hui débat dans ce pays.
En effet, et nous avons vu qu'on ne pouvait pas appréhender ce sujet sans replacer l'action de Mère Teresa dans une perspective plus vaste qui était celle de la perception que l'on se fait du christianisme en Inde.
Et pour nos auditeurs qui auraient manqué cette histoire, ils peuvent évidemment retrouver tout cela sur le site rcf.fr en rubrique réécoute, en sélectionnant RCF France Ardennes et en trouvant le numéro de Mémoire chrétienne pour avoir la petite mise à jour s'ils ne l'ont pas eu.
Absolument.
Avant d'attaquer cet entretien avec vous aujourd'hui, Jean-François, vous nous avez effectivement dit que les chrétiens constituaient la troisième communauté religieuse de l'Inde. Ils représentent 2,3% de la population contre 80,5% pour les hindous et 13,4% pour les musulmans. 70% des chrétiens des Indes sont catholiques, soit 16 millions de personnes au recensement de 2011. Alors, ça fait pas mal de données.
Oui, voilà, tout à fait. Merci de ce résumé. Ce sont des chiffres globaux, mais tous les chrétiens et tous les catholiques, notamment, ne sont pas perçus de la même façon par leurs compatriotes indiens, adeptes d'une autre religion, et notamment par les hindous, majoritaires, comme vous l'avez dit, dans le pays. 23% des catholiques appartiennent à l'église Syro-Malabar, que la tradition fait remonter à l'apôtre Thomas vers 52. Alors, il n'est pas du tout sûr que la tradition soit confirmée par les historiens. Par contre, cette église a deux atouts auprès des autres Indiens. Premièrement, elle appartient à une histoire millénaire qui est celle de l'Inde. Et deuxièmement, elle a recruté la plupart de ses membres dans la caste supérieure, celle des brahmanes. Donc elle est paradoxalement valorisée par ce système des castes. Par contre, les autres chrétiens qui sont membres, eux, de l'église catholique romaine, sont apparus avec l'évangélisation par les Portugais au XVIe siècle, puis la poursuite de cette évangélisation par des missionnaires européens à l'époque de la colonisation anglaise. Ils se recrutent d'ailleurs parmi les intouchables, c'est-à-dire que ceux qui sont tout en bas de la hiérarchie des castes, et à qui le christianisme permet justement de s'affranchir de ce système des castes. Ou alors, deuxième cas de figure, dans les minorités aborigènes du nord-est de l'Inde qui sont aussi, disons, dévalorisées socialement. Dans les deux cas, donc, ils sont mal considérés. Et par ailleurs, deuxième inconvénient pour eux, ils appartiennent donc à une église qui est arrivée tard en Inde dans le contexte de la pénétration des puissances européennes en Inde.
Vous avez parlé, Jean-François, de missionnaire. C'est dans ce cadre que Mère Teresa arrive en Inde.
Alors effectivement, à ce titre, elle a d'abord exercé donc son apostolat dans le cadre de ce qui constitue un des points forts des chrétiens en Inde, c'est-à-dire l'enseignement. Elle a dirigé une école destinée aux filles des milieux aisés de la ville de Calcutta, l'école Sainte-Marie. Et puis ensuite, elle sort de cette voie tracée pour se consacrer à l'action charitable en direction des plus pauvres. Le 10 septembre 1946, c'est-à-dire peu avant l'indépendance de l'Inde, qui va changer bien entendu les conditions dans lesquelles les missionnaires vont agir, elle reçoit ce qu'elle a appelé l'appel dans l'appel. Je la cite, « Soudain, j'entendis avec certitude la voix de Dieu, le message était clair, je devais sortir du couvent et aider les pauvres en vivant avec eux. C'était un ordre, un devoir, une certitude. Je savais ce que je devais faire, mais je ne savais pas comment. » Et alors, pour cela, pour savoir comment, Mère Teresa expose son désir de tout quitter à son guide spirituel, qui est le jésuite belge Céleste Van Exem, puis à l'évêque de Calcutta, qui s'appelle Ferdinand Perrier, lui aussi jésuite et belge. Alors, si je mentionne le nom de ces deux personnages, c'est pas simplement parce qu'ils ont joué un rôle important dans l'évolution de l'apostolat de Mère Teresa, c'est parce qu'ils sont également révélateurs de la manière dont l'Église catholique romaine en Inde reste alors, en 1946-47-50, tributaire de ces cadres européens, donc peut donner l'impression d'être étrangère à l'Inde, alors même que l'Inde s'apprête à devenir un pays indépendant. Précisons cependant que Ferdinand Perrier, évêque de Calcutta, a été promoteur de l'inculturation dans les séminaires, et c'est lui qui va obtenir des autorités romaines que Mère Teresa puisse quitter son couvent, vivre dans un bidonville, et fonder donc en 1950, donc peu après l'indépendance, la congrégation des missionnaires de la charité. Et elle aussi choisit la voie de l'acculturation puisqu'elle adopte comme habit religieux le sari, traditionnellement indien, pour se fondre justement dans la population indienne. Ce sari est blanc, il est bordé de 3 bandes bleues. On sait bien entendu que le blanc et le bleu sont les couleurs mariales, mais si ce costume est adopté par la congrégation, c'est aussi parce que les femmes pauvres qui balayaient les rues de Calcutta portaient justement un sari avec une bande bleue.
Cela suffit-il à avoir de bonnes relations avec les hindous,
Jean-François ? Oh non, parce que ces relations vont effectivement être difficiles. Il y a un épisode fameux qui en témoigne, c'est en 1952, donc dans une Inde désormais indépendante, que Mère Teresa ouvre un centre pour vagabonds et indigents moribonds, les aider à mourir dans la dignité, qu'elle appelle Nirma Ridai, cœur pur en bengali, donc ça se passe à Calcutta. Et c'est d'ailleurs là qu'elle va recevoir, plus tard, en 1986, Jean-Paul II lorsqu'il viendra en Inde. Or, ce bâtiment se trouvait à proximité immédiate d'un temple hindou consacré à la déesse Kali. C'est très mal perçu par un certain nombre d'hindous qui, par ailleurs, accusent Mère Teresa, dès cette époque-là, de faire du prosélytisme. Une émeute éclate et les religieuses ne doivent leur survie qu'à l'intervention de la police. Ultérieurement, Mère Teresa va se réconcilier avec le quartier en accueillant des hindous à l'article d'Amor qui sont rejetés par les autres parce que justement ce sont des intouchables. Donc les relations se sont améliorées, mais cet épisode a d'abord montré que les autorités indiennes avaient dû intervenir, avaient été capables de le faire face à l'hostilité d'un certain nombre d'hindous pour défendre justement le projet de Mère Teresa.
Et alors aujourd'hui, Jean-François Boulanger, est-ce que c'est toujours la même situation ?
Pas vraiment, parce que l'Inde politiquement et culturellement a changé depuis le lendemain de l'indépendance. Celui qui avait guidé l'Inde vers l'indépendance, c'était, chacun le sait, le Mahatma Gandhi. Il s'était efforcé, avant la division de l'Empire des Indes en deux entre Pakistan et Union indienne, de maintenir le dialogue avec les musulmans. Et c'est ce qui lui vaudra d'être assassiné par un extrémiste religieux hindou, membre du mouvement RSS, dont on a vu que certains de ses membres accusaient justement Mère Teresa de faire du prosélytisme. Après la mort du Mahatma Gandhi, c'est son bras droit, qui est le chef du parti du Congrès, qui va diriger l'Inde, c'est Nehru, qui veut créer une Inde moderne et laïque, dans lesquelles les minorités religieuses auraient leur place, les musulmans, les chrétiens et les Sikhs. Et il va gouverner l'Inde de 1945 à 1964. Ultérieurement, ça sera sa fille, Indira Gandhi, qui va gouverner de 1966 à 1984 avec une brève interruption. Elle est sur des positions assez proches des siennes, mais justement, elle meurt assassinée par des Sikhs parce qu'elle a déjà dû faire face à la revendication de la minorité Sikh qui veut un État autonome Sikh. Donc, voyez, ça veut dire que les clivages religieux sont en train de s'accentuer. Et c'est dans ce contexte que le parti hindou BJP va progressivement s'imposer, notamment avec l'arrivée au pouvoir en 2014 de Narendra Modi. Celui-ci mène une politique anti-musulmane. Mais les chrétiens sont également visés. Les nationalistes hindous ont de longue date tout un programme pour, entre guillemets, reconvertir les hindous devenus chrétiens ou musulmans, et ils s'efforcent d'empêcher les ONG chrétiennes de travailler en Inde en compliquant la réception de fonds étrangers. Et c'est comme ça qu'en 2011, le gouvernement indien n'avait pas renouvelé la licence permettant aux missionnaires de la charité, la congrégation créée par Mère Teresa, de recevoir des fonds étrangers. Et plus que jamais, donc, c'est la crainte des conversions qui expliquait ce type de décision, alors même que le nombre des chrétiens en Inde n'augmente plus aujourd'hui. Mais la décision a fait tellement de bruit que, devant l'émotion générale, le gouvernement indien est revenu en arrière, alors qu'il ne l'a pas fait pour d'autres mouvements de ce type.
Alors, Jean-François Boulanger, qu'est-ce que l'on doit conclure de tout ça?
Eh bien, vous voyez, la mémoire de Mère Teresa est très vive, incontestablement, au sein de l'Église catholique. Elle fait l'unanimité. Par contre, justement, on voit qu'elle peut diviser pour des raisons nationales. On l'a vu dans le premier épisode, l'Albanie et la Macédoine du Nord se disputent sa mémoire et son origine, alors qu'aucun de ces deux pays n'est majoritairement catholique. Quant à l'Union indienne, eh bien, on constate qu'aujourd'hui, ses dirigeants la regardent avec suspicion. Et donc, une fois de plus, la mémoire d'un grand personnage religieux peut devenir un instrument politique au service de causes qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'action qu'elle a menée. On continuera à le voir dans les épisodes prochains, bien entendu.
Il faudra patienter jusqu'à la rentrée de la saison radiophonique. Ce sera en septembre 2023. Merci Jean-François Boulanger d'avoir été fidèle au poste tout au long de cette saison, que ce soit pour regarder sur le monde avec votre collègue Claude Ruiz ou pour ces numéros de Mémoire chrétienne que vous nous avez brillamment raconté tout au long de l'année. À très bientôt Jean-François.
À très bientôt, c'était un plaisir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
17h11 dans ce magazine estival. L'ancien rédacteur en chef au journal L'Union, Hervé Chabot, est avec nous pour un décryptage de l'actualité dans ce 17-18. C'est avec Jean-Pierre Benoît.
Hervé Chabot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, le calendrier, aujourd'hui on est le 11 juillet, ben, bientôt le 14. Et c'est vrai que le 14 juillet est un événement, bien sûr, la fête nationale. On peut faire le point avant cet événement?
Bah, c'est un événement qui se passe dans un contexte qui reste fragile à l'heure actuelle. Bon, il y a un retour à une paix publique qui est quand même avérée, mais les choses sont fragiles. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mobilisé d'énormes moyens de sécurité dans cette perspective, car on sait aussi que souvent dans la nuit du 13 au 14 juillet, il y a quelques agitations et quelques compositions et compétitions malvenues en raison de la volonté de certains toujours d'y brûler des voitures.
Donc ça, c'est un événement avec une situation fragile. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas en ce moment un phénomène d'inversion des valeurs qu'on peut remarquer ici ou là?
Ah, on a cette impression tout à fait réelle. Regardons encore ce qui s'est passé le week-end dernier, avec notamment une chanteuse qui fait des déclarations en plein concert sur le président de la République en portant un jugement de valeur. C'est peut-être pas le lieu particulier pour le faire. D'autre part aussi, sur le parcours du Tour de France, un monument aux morts qui est tagué avec des noms d'un certain nombre de jeunes qui étaient morts suite à des altercations avec la police, mais avec des refus d'obtempérer au début qui souvent étaient la raison des difficultés. On a vu également un certain nombre de pays et de grands pays nous donner des leçons de démocratie suite aux événements que l'on a connus pendant 9 jours en France après la mort de Naël.
On peut citer l'Iran.
L'Iran, bien sûr, mais également la Turquie, l'Algérie. Or que je sache, leur principe même de fonctionnement de l'ordre public et de la sécurité est loin d'être parfait. Et lorsqu'on voit que ces pays se permettent de donner des leçons à la France, on a presque envie de sourire, car c'est une provocation évidente. Elle est à la fois politique, elle est à la fois diplomatique, et elle est à la fois, là aussi, au sens de nos valeurs humanistes et démocratiques, un exemple de l'inversion des valeurs. Mais pas seulement. Lorsqu'on regarde aussi que certaines institutions en lien avec l'Organisation des Nations Unies, qui sont totalement, j'allais dire, désormais enquistées dans un certain nombre de valeurs et de modes américaines autour de la culture woke, et qui parlent d'un pays comme la France au racisme systémique, qui serait même xénophobe et antisémite, je crois qu'il faut quand même savoir raison garder et ne pas faire des généralités ou des analyses absolument réductrices est complètement déplacé.
Mais ce sont des institutions officielles.
Mais ce sont des institutions
reconnues mondialement.
Reconnues certes mondialement, mais qui sont en train de se discréditer intellectuellement parlant au regard de ce qui se passe réellement en Europe. Le regard qui est porté notamment par les États-Unis et par ces institutions sur le fonctionnement à la fois de l'Union européenne, mais sur ce qui se passe en France, et la démonstration d'erreurs d'analyse, là aussi graves, structurelles, et qui attestent aussi le fait que les États-Unis ont toujours eu un problème avec la lecture de l'histoire, et en réalité, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inculturation sur cette question.
La situation économique, évidemment, Hervé Chabot, d'ailleurs, le président de la République, va intervenir le 14 juillet à la télévision, comme à chaque fois. Et certainement que les données économiques vont être à l'ordre du jour. Il y a des points positifs, mais il y a aussi des fragilités, beaucoup de fragilités.
Absolument, parce qu'on parle d'effectivement une amélioration du niveau de l'emploi, ce qui est une réalité. On est à un taux de chômage de 7,1% à l'heure actuelle. Lorsqu'on voit que l'Organisation internationale du travail considère aujourd'hui le niveau de chômage quasiment incompressible, tournant autour de 5%, on s'aperçoit que ça fait encore un différentiel vis-à-vis de la France, qu'il faudrait qu'on crée 700 000 emplois pour pouvoir y parvenir. Mais c'est pas seulement cet élément-là. C'est surtout les problèmes des déficits, j'allais dire structurels, qui touchent la France, qui commencent à poser réellement problème. Nous avons été, en 2022, le moins bon pays de la zone euro en termes de déficit. 4,7% du produit intérieur brut, c'est lourd. Et il y a un risque, une menace dont on parle pas ou peu, qui pèse sur la France. C'est le déclenchement par l'Union européenne d'une procédure pour déséquilibre macroéconomique qui pourra avoir et provoquer un choc extrêmement important. Pour la simple raison, c'est que l'État en France dépense beaucoup plus que ce qu'il ne gagne. En 2022, nous avons dépensé près de 639 milliards d'euros alors que nous avons eu tout juste 504 milliards d'euros de recettes. Vous voyez le différentiel tel qu'il se pose, et que d'autre part, les niveaux de nos exportations restent très insuffisants au regard du différentiel qui apparaît par rapport aux importations. Et on couvre à peine un taux de 78,4% à l'heure actuelle. C'est insuffisant, et c'est un risque aussi à terme de mesurer un abandon de la souveraineté de la France au regard de ses fragilités économiques.
Mais si j'étais un peu provocateur, Hervé Chabot, je dirais, mais bon, ça marche comme ça, ça continue de couler, ça va rouler.
Oui, parce que on a un discours que l'on entend de plus en plus par rapport, on dit que tout est complexe. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont complexes. Mais le problème lorsque l'on dit ça, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on considère que c'est un alibi et qu'on ne va pas au fond des choses parce qu'on a un grand verbiage, on a des grandes expressions et on ne voit pas des solutions apparaître.
Alors phénomène aussi récent, ça c'est à chaud puisqu'il nous reste un peu plus d'une minute, Hervé Chabot, c'est le phénomène des réseaux sociaux. Aujourd'hui tout le monde est journaliste, tout le monde donne son point de vue sur tout le monde a la grosse tête et se prononce sur tous les sujets, ils sont tous de Polytechnique. Vous qui avez 40 ans de journaliste dans la musette, comme on dit, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Qu'il y a un véritable danger, parce qu'il y a une partie de la population qui n'est plus que centrée aujourd'hui sur son portable, l'image, un message extrêmement court, réducteur. On a un certain nombre de phrases, un certain nombre de comportements, un certain nombre d'analyses, entre guillemets, de la situation, qui sont faites en quelques mots et qui ne correspondent pas à la réalité des choses. Et là, c'est véritablement le danger.
En 30 secondes, Hervé Chabot, avez-vous l'impression que nous sommes, d'une certaine façon, manipulés?
Il y a des formes de manipulation. Il y a des groupes, effectivement, qui interviennent sur les réseaux sociaux pour faire passer des messages qui sont contraires à la réalité et aux constats qui peuvent être faits par des gens qui ne sont même pas des experts, mais qui font preuve tout simplement de bon sens.
Merci Hervé Chabot d'avoir été avec nous. On va vous retrouver, bien sûr, toute l'année sur l'antenne de RCF. Et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Le 18-19 sur RCF.
18h19 sur les ondes de RCF France Ardennes et sur RCF Champagne Ardennes avec le DAB+. Notre invité nous attend par téléphone depuis la ville de Sedan dont il est maire. C'est Didier Herbillon, également premier vice-président d'Ardennes Métropole. Didier Herbillon, bonjour.
Bonjour Alexis.
Merci d'être en direct avec nous en cette période estivale. Alors évidemment, d'ici quelques minutes avec vous, on regardera ce que l'on peut faire à Sedan pendant ces vacances d'été. Et puis on balayera aussi l'actualité du territoire. Mais j'allais dire l'actu chaude, l'actu bouillante, Didier Herbillon. C'est le club sportif Sedan Ardennes. Une photographie de la situation à l'heure où l'on se parle. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur le maire?
Ah ben écoutez, je suis au cœur des débats, si je peux m'exprimer ainsi. pour essayer de sauver ce club, alors avec d'autres, et tout particulièrement aussi avec une mobilisation forte des supporters du CSSA. C'est d'ailleurs quelque chose d'extrêmement réconfortant. Alors, pour vous donner un peu un état de la situation, il y a deux options sur la table, évidemment, ou bien on réussit à mobiliser les quelques millions d'euros nécessaires pour faire repartir le club en N1, mais j'y crois évidemment de moins en moins, parce que le rapport de la NCG qui nous a été adressé hier soir montre que, au fond, ce qui avait été annoncé comme déficit est bien inférieur à la réalité, et que ça a largement perturbé les travaux que nous avons menés et les contacts que nous avons pris ces derniers jours. Donc, on s'oriente probablement, et plus probablement en tout cas, vers une descente en Régional 1. Mais là encore, on y travaille et on sera solide l'année prochaine en R1 pour écrire une nouvelle page de ce club, une nouvelle page de l'histoire de ce club qui, comme je l'avais déjà indiqué, ne mourra pas. C'est un challenge nouveau, inattendu, qui nous attend, mais collectivement et avec de nombreux acteurs locaux, mais pas que, quelques annonces seront faites très très prochainement, eh bien nous referons demain, le temps fera l'affaire, de ce club, un club important dans le football français.
Ça veut dire, Didier Herbillon, que derrière vous, vous avez réussi à mobiliser, alors je dis derrière vous et puis avec ceux qui portent ce projet, hein, évidemment, vous avez réussi à mobiliser peut-être des partenaires, également, vous l'avez mentionné, les supporters qui ont créé cette société coopérative d'intérêt collectif. On sent qu'il y a un véritable élan et qu'il y a la possibilité véritablement de sauver le club. Alors, comme vous l'avez dit, peut-être pas en National 1 ou en National 2, peut-être en Régional 1, mais en tout cas, voilà, le club de Sedan existera en 2023-2024.
Absolument, aujourd'hui j'en ai la certitude absolue. Nous existerons demain, nous prendrons notre place dans le championnat de R1, mais pas pour longtemps, vous pouvez en être sûr. Et surtout le club de cette ville, ce club magnifique, sera dirigé par un collectif, Sagittien. On voit bien que la solution ou d'un homme providentiel a échoué, malheureusement. Il faut que les valeurs de ce club soient rétablies. Il faut que ce club s'appuie sur une formation également de qualité, solide, ce qui avait fait d'ailleurs sa force par le passé, et qu'il reprenne sa place petit à petit. On le sait, ça va prendre du temps, évidemment, mais je sais qu'il y a autour de ce club un environnement extrêmement fort, qu'il soit économique, qu'il soit populaire, qu'il soit aussi politique, car les collectivités sont derrière ce club. Il y a aussi un stade, il y a évidemment un stade qui est un des plus beaux stades de France, qui est un stade de Ligue 1 et qu'il faut faire vivre également. Donc tout ça constitue des bases très solides, très saines pour repartir de bon pied, si je puis me permettre cette expression.
Justement, puisque vous évoquez les infrastructures, Didier Herbillon, si l'on s'éloigne de quelques kilomètres de Sedan, il y a aussi le domaine de Montvillers avec le château, le centre d'entraînement actuel du club sportif Sedan Ardennes. Est-ce qu'aujourd'hui, sans être trop gourmand, ou peut-être est-ce trop l'être, on peut espérer sauver à la fois l'équipe, le club et toutes ces infrastructures pour que le club soit, j'allais dire, existe avec tout ce qu'il a déjà réussi à construire?
Non, Montvillers, nous faisons sans. D'abord parce que il est propriété d'une société qui appartient à Marc Dubois, qu'aujourd'hui d'ailleurs au regard du très peu de peu d'investissements qui ont été réalisés dans ce centre d'entraînement, il est presque obsolète. Il est très difficile aujourd'hui de s'y entraîner. Les synthétiques sont aujourd'hui dans un état assez lamentable. Donc on va faire revenir le club et les jeunes sur la ville de Sedan. Et la ville d'ailleurs va très prochainement mettre en place des investissements pour reconstruire des terrains qui permettront à l'école de football de revenir là où elle aurait toujours dû être d'ailleurs, c'est-à-dire sur la ville.
D'ailleurs, Didier Herbillon, parmi les personnes providentielles qui mettent la main à la pâte, évidemment, vous en êtes. Aujourd'hui, dans nos confrères de l'Ardennais, on a entendu le nom de Francis Roumi, qui a été le président du club entre 89 et 99, qui a dit « je ne serai pas président », mais qui apparemment, lui aussi, a mis la main à la pâte pour passer pas mal de coups de fil. On imagine que c'est au moins une des personnes avec qui vous êtes en contact pour porter ce projet ?
Alors, c'est pas les mêmes projets, très clairement. Moi, Francis Roumi, il fait partie d'un certain nombre de personnes qui se sont mobilisées pour tenter de sauver le club. Elles ont été nombreuses, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins d'appui extérieur. Pour l'instant, évidemment, moi, j'ai ouvert ma porte à tous ceux et à toutes celles qui souhaitaient faire un bout de chemin pour sauver le club. Le projet qui va sortir aura besoin de toutes les bonnes volontés.
Alors évidemment, on imagine que vous êtes encore une fois mobilisé et que les prochaines heures, comme les dernières d'ailleurs, sont encore cruciales, Didier Herbillon, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de boulot à la fois pour essayer de retourner la DNCG et puis aussi pouvoir faire réclamation. Maintenant, c'est devant le CNOSF.
Oui, alors... Vous savez, moi je pense que nous ne parviendrons pas à retourner la DNCG, comme vous dites. Je suis désolé de le dire, ça va peut-être décevoir beaucoup, mais
c'est un constat lucide en tout cas, c'est un constat lucide.
Oui, bien sûr, on peut pas tout d'un coup trouver plusieurs millions d'euros comme ça en quelques heures. Si nous avions été prévenus il y a un an, par exemple, de l'intention de Marc Dubois de ne pas réenclencher sur une saison, là on avait le temps de reconstruire quelque chose, mais on était pris vraiment au dépourvu. Moi j'ai été abasourdi quand l'annonce a été faite. Donc c'était très très difficile effectivement de prévoir cela et puis de réagir dans les heures et dans les jours suivants. Surtout que nous n'avions pas la réalité. Si vous voulez, de l'état financier du club. On l'a eu hier soir. Donc vous voyez à quel point les choses sont difficiles. Non, je crois que peut-être est-il plus raisonnable finalement de repartir sur des bases différentes, sur une gouvernance différente et plurielle, en mettant autour de nous des acteurs locaux, qui sont prêtes effectivement à faire des efforts, mais aussi à être, pour certains d'entre eux, bénévoles au sein de ce club, et reconstituer au fond ce qui a fait la force du CCSA, c'est-à-dire son imprégnation extrêmement forte sur notre territoire.
En tout cas, Didier Herbillon, on verra comment ça va se passer dans les prochaines heures. L'actualité, puisque vous êtes maire de Sedan et premier vice-président d'Ardennes Métropole, c'est aussi l'occasion de dire ce qu'il va se passer cet été avec quelques bonnes nouvelles. Notamment, on lisait aujourd'hui chez nos confrères de l'Ardennais que les vélos électriques débarquent à Sedan. C'est une initiative qui a été menée justement par la communauté de communes Ardennes Métropole avec cette idée de favoriser les mobilités douces.
Tout à fait. Hein, on est aujourd'hui dans des politiques qui sont adaptés au contexte que nous vivons, hein, on le constate tous les jours d'ailleurs. Je crois qu'il faut être économe en énergie, il faut effectivement faciliter et préserver notre environnement, et le vélo en est un excellent moyen. Il faut que ce vélo soit effectivement aussi adaptable à toute personne, quel que soit son niveau et ses capacités physiques. Donc c'est un excellent moyen effectivement de faciliter les déplacements doux. C'est aussi un moyen intéressant pour les touristes qui voudront visiter nos villes de pouvoir disposer également de ce moyen de transport pour les emmener d'un site à l'autre, et ils sont nombreux.
Et vous, justement, qui connaissez Sedan, Didier Herbillon, qu'est-ce que vous recommandez aux auditeurs de RCF France-Ardennes et à travers toute la Champagne-Ardennes via le DAB+, pour cet été? La dynamique de l'été est bien lancée, j'allais dire, avec la fête de la bière il y a quelques jours, les rencontres guitare et patrimoine qui viennent de s'achever. C'est quoi la suite du programme pour les mois de juillet et août?
C'est très varié et très, très intéressant. Alors, il y a un superbe festival qui s'appelle Cuivre en Ardennes et qui va commencer à la fin de ce mois de juillet. C'est un succès phénoménal chaque année, avec des milliers de visiteurs, des soirées en plein air, des soirées également dans des lieux patrimoniaux de la ville. c'est d'une très grande qualité. C'est aussi derrière 80 jeunes musiciens qui viennent pendant une semaine en stage dans les murs de la ville. Ce sont des déambulations lors des jours de marché. Enfin, c'est vraiment un magnifique événement et je conseille à tous les champardonnais de ne pas le rater. Ça dure une semaine et c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire dans notre ville. Et puis bien sûr, il y a tous nos sites touristiques, la Maison du Patrimoine, le Dijonval, notre château fort qui, vous le savez, sera finaliste de l'émission Le Monument préféré des Français. Il a mis en place une nouvelle scénographie très très impressionnante et qui remporte d'ailleurs un très grand succès. Bref, il y a aussi notre voie verte et donc les balades à vélo, à pied ou en roller au bord de notre magnifique fleuve. Bref, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire à Sedan. Il y a aussi des possibilités de se loger dans nos hôtels, dans nos Airbnb, dans nos gîtes, etc. Bref, l'été à Sedan sera chaud, nous l'espérons, mais pas trop. Et puis, sera riche, évidemment, des visiteurs qui viendront nous faire plaisir.
Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite, Didier Herbillon, un bel été. Demain, justement, on partira, nous, à la visite du château fort de Sedan sur les ondes de RCF France-Ardennes. Et puis, dans quelques instants, autre balade estivale dans les Ardennes. On ira du côté de la Cassine. Vous êtes presque voisins. À très bientôt, Didier Herbillon.
À très bientôt, merci.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Effectivement, à 17h32, c'est la direction du domaine de Vendresse, de la Cassine en Ardenne, que l'on prend avec le président Quentin-Paul Laurent, qui est avec nous par téléphone, qui nous attend sur le quai de la gare. C'est un grand voyageur, Quentin-Paul Laurent, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les éditeurs.
On va faire en sorte, Quentin-Paul Laurent, que vous ne loupiez pas votre train, et puis on va quand même présenter ce spectacle. Le coup d'envoi, c'est à partir de vendredi pour cette saison 2023, de samedi, pardon, pour cette saison 2023. Robin des Bois. La Cassine devient la forêt de Sherwood, j'ai envie de vous dire, Quentin-Paul Laurent.
Ben, c'est exactement ça, vous avez tout compris. Effectivement, on avait un lien. On a la Cassine, en fait, c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est un tout petit village, c'est un hameau de Vendresse, et on est en plein cœur de la forêt ardennaise, avec un bâtiment, des ruines d'un château, enfin de deux châteaux, et un couvent, le couvent des Cordeliers. Et au milieu de tout ça, on est dans la forêt, et la Seine, le fond de Seine à la Cassine, c'est la forêt. Et c'est vrai que du coup, faire Robin des Bois à la Cassine, ça s'y prêtait totalement parce que le décor de la forêt de Sherwood est naturel. Et c'est un des plus beaux décors qu'on ait jamais eu dans un spectacle, évidemment.
Alors, cette représentation du spectacle Robin des Bois, ça sera tous les vendredis et samedis, à partir de ce samedi 15 juillet jusqu'au 12 août prochain. Il faut dire, Quentin-Paul Laurent, que cette année, l'histoire de Robin des Bois, c'est le même spectacle que l'an dernier. Est-ce que d'une année sur l'autre, il y a des changements, par exemple, dans les acteurs, dans les costumes, dans la mise en scène? Est-ce que l'on retravaille des choses?
Oui, alors généralement, sauf si vraiment la première année était catastrophique, mais on essaie que ça ne soit pas le cas, on ne change pas fondamentalement le spectacle. Effectivement, on fait des corrections, on change quelques costumes, les comédiens changent aussi, hein, parce que comme ce sont des bénévoles, mais, et notamment dans le spectacle Robin des Bois, il y a beaucoup de jeunes comédiens, donc ils partent faire des études, donc c'est vrai que ça tourne beaucoup. Donc oui, il y a quelques modifications, puis on essaie toujours d'améliorer avec les retours du public, que le public nous a fait la première année, mais on dit ah oui, tiens, effectivement, ça on pourrait changer, ça on pourrait améliorer, on pourrait éclairer autrement, on pourrait mettre en scène autrement, donc c'est vrai que l'hiver, on retravaille entre deux saisons un petit peu le spectacle. Le scénario est le même, mais c'est vrai qu'on me dit toujours, on refait un peu la déco autour, quoi.
Alors, à quoi faut-il s'attendre pour cette année 2023, Quentin-Paul Laurent ?
Ben, j'espère encore à de bons moments, que le public vienne vraiment. Moi, je dis toujours que quand on vient à la Cassine, on vient vivre une expérience, c'est-à-dire on se plonge dans un lieu de patrimoine, on vit ce spectacle unique en Europe avec cette tribune qui se déplace sur 300 mètres, donc du couvent jusqu'aux ruines du château, et qui vous offre des sensations, des émotions particulières. Et donc j'espère que ce qui sera encore beau, de ce qui sera grand, bah, c'est toutes les émotions qu'on peut partager avec le public. Nous, en tout cas, on attend que ça. Toute la troupe se disait ça la semaine dernière en répétition. On a vraiment hâte que le public soit là pour vibrer, pour rire, pour pleurer aussi, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce spectacle, et c'est ce qu'on attend impatiemment.
Alors, on imagine que les places, on peut se les procurer dès maintenant, peut-être en réservant, en téléphonant, en passant par le site internet. Quelles sont les démarches à effectuer pour pouvoir venir assister à ce spectacle Robin des Bois à la Cassine?
Alors, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire, effectivement, il y a notre site internet, www.la-cassine.com, où vous pouvez réserver, choisir vos places sur le plan directement, comme une salle de spectacle classique. Vous avez aussi le standard. Alors là, nos bénévoles font tout pour répondre au maximum d'appels, mais c'est vrai que parfois c'est un peu, y a un peu d'attente. Ou alors aussi, on a pas mal d'offices de tourisme partenaires dans la région. Je pense à celui de Charleville, de Rethel, de Vouziers, aussi de Monthermé, de Stenay, où vous pouvez aller acheter vos places directement dans les offices du tourisme. Et ça, c'est important parce que ce sont de vrais lieux de vie où vous pouvez bien sûr acheter vos places pour la Cassine et puis découvrir tout un tas d'autres choses à faire dans les Ardennes.
Alors c'est aussi l'occasion évidemment, Quentin Paul Laurent, de présenter l'équipe qu'il y a autour de vous, parce que vous êtes président, vous a connu à l'époque quand vous occupiez, j'allais dire, de la communication, mais encore aujourd'hui c'est vous qui êtes avec nous pour nous présenter ce spectacle Robin des Bois pour cet été 2023. C'est une équipe de combien de bénévoles qui sont mobilisés? Parce que nous on voit la période estivale, mais tout au long de l'année il faut quand même préparer ce spectacle, on imagine à la fois ranger les lieux mais les préparer pour la saison suivante, donc finalement vous êtes mobilisés 365 jours par an.
C'est tout à fait ça, oui. On est une petite équipe, on va dire, de bénévoles permanents toute l'année. On est une trentaine à peu près. Et puis plus la période estivale approche, ben plus on est nombreux, et en période estivale, on monte jusqu'à 150 personnes qui sont là les soirs de spectacle pour accueillir le public.
Alors c'est vrai que l'on a parlé de ce spectacle Robin des Bois. C'est une question un petit peu piège, Quentin Paul Laurent, mais finalement héros ou hors la loi ce Robin des Bois?
Ah. Ben là est toute la question. Pardon, c'est toute la question et toute la philosophie du spectacle. J'ai envie de dire au spectateur de se faire son avis et de répondre à cette question. Moi, je vous dirais bien qu'il est hors la loi, mais que c'est un peu un héros quand même, et que heureusement que des fois il est hors la loi, parce que ça permet de faire bouger pas mal de choses.
Et pour
il faut faire ça dans la vie, mais dans un spectacle, on a le droit de le faire.
Et pour venir découvrir ce spectacle dont on parle beaucoup, c'est normal, c'est, j'allais dire, le cœur du projet pendant cet été à la Cassine, il y a la possibilité de vivre une expérience, j'allais dire, encore plus fantastique, encore plus en immersion sur le site du domaine de la Cassine, près de Vendresse, dans les Ardennes. Quant à Paul Laurent, il y a plusieurs formules où on peut manger à la fois, j'allais dire, au banquet à la chapelle, on peut manger la formule régionale au chalet, je crois, on peut être au couvent des Cordeliers, enfin, dites-nous tout, vous connaissez mieux tout cela que moi.
Oui, alors effectivement, vous pouvez. Souvent, les gens aiment beaucoup ça, c'est-à-dire venir à partir de 19h, commencer la soirée en famille, entre amis, autour d'une salade au lard, autour d'un menu complet dans la chapelle, autour d'une frite, d'un sandwich un peu typique qu'on a inventé avec des produits locaux et régionaux. Ça, c'est la première partie de soirée. On peut aussi, et ça, c'est nouveau depuis quelques années, s'offrir une petite expérience, ce qu'on appelle le pass VIP, où en fait vous partez avec un guide juste avant l'ouverture de la tribune, vous allez visiter un peu les coulisses, on vous raconte l'histoire du site et on vous entrez en fait sur scène comme les comédiens pour vivre un petit peu aussi ce qu'ils vivent. Donc ça, c'est un billet que vous pouvez réserver qui s'appelle le Pass VIP. Et puis effectivement, ensuite, la soirée qui se poursuit avec le spectacle à partir de 22h30. Les gens sont de plus en plus demandeurs de moments comme ça, un petit peu hors du temps. Et c'est ce qu'on essaye de proposer à tout le monde, de vraiment se mettre dans une bulle historique, fantastique et un petit peu magique à la tombée de la nuit à la Cassine. Voilà. Et toujours aussi, ça c'est important de le dire, dans des tarifs qui restent très raisonnables. On est une association, mais on a pris à notre charge, en tout cas au maximum, toutes les augmentations qu'on a pu connaître, parce que il y a la magie de la Cassine, mais aussi la réalité derrière. On a fait le choix de ne pas augmenter nos tarifs, ou vraiment très très peu. Et donc, c'est plus difficile pour nous après de renouveler et d'avoir une bonne trésorerie pour envisager l'avenir. Mais on fait ce choix-là pour que les gens puissent venir, pour que les gens puissent profiter et vivre un moment qui fait du bien à tout le monde, vraiment, quand on vient à la Cassine, quoi.
J'allais dire, quant à Paul Laurent, c'est un choix très fort que vous faites et que vous nous expliquez là à l'antenne. C'est ce qui renforce aussi certainement l'engagement et la mobilisation des bénévoles qui font vraiment les choses avec le cœur, pour le plaisir, à la fois pour prendre plaisir, mais aussi pour en donner et en partager un maximum le temps de ces soirées avec les spectateurs qui vous rejoignent sur le domaine.
Oui, bien sûr, parce que il faut pas se mentir, le milieu associatif, et quand vous organisez un tel événement, c'est énorme, hein, c'est des milliers de personnes accueillies, c'est énormément de réglementations sanitaires, sécuritaires. Donc il faut beaucoup de voilà, il y a beaucoup de contraintes, et si on le fait, c'est vraiment par passion, c'est vraiment par cœur, et c'est vraiment pour que les gens viennent et qu'on puisse partager ça. Ça paraît peut-être un peu ésotérique ou enfin, en tout cas un peu farfelu, mais vraiment, si nous on est là en tant que bénévoles, c'est vraiment pour ça, pour donner du bonheur aux gens, et on espère qu'ils seront nombreux cette saison, parce que comme je le dis à chaque fois, s'il n'y a pas de public à la cassine s'arrête, la cassine meurt, et c'est un vrai domaine du patrimoine, ça a une vraie place dans l'histoire de France, et notre mission aujourd'hui, c'est de perpétuer tout ça et de le faire vivre.
Eh bien, en tout cas, on espère que le public répondra présent encore pour cette édition 2023. Robin des Bois à la Cassine, c'est dans les Ardennes, tout près de Vendresse. Quentin Paul Laurent, président, merci d'avoir été avec nous. On donne rendez-vous aux auditeurs de RCF tout au long de l'été, à partir de ce samedi 15 juillet jusqu'au 12 août. Évidemment, n'y allez pas sans avoir réservé vos places. Vérifiez qu'il y a quand même des disponibilités. Achetez vos places avant en ligne ou en réservant au standard. En tout cas, un très grand merci, Quentin Paul Laurent, d'avoir été avec nous par téléphone pour nous présenter ce spectacle. Et puis, j'allais dire, cette offre complète que vous proposez dans les Ardennes au domaine de la Cassine près de Vendresse.
Ben merci à vous et merci toujours pour votre soutien, parce que c'est un vrai bonheur de vous retrouver à chaque fois. Merci beaucoup.
À très bientôt et puis bon voyage, parce qu'on l'a dit au début de cet entretien, vous prenez le train tout de suite, donc on espère vous retrouver dès samedi du coup du côté de Vendresse.
Ben oui, j'espère que d'ici là je serai arrivé.
Il n'y a pas de raison, Quentin Paul Laurent, à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
17h41 sur les ondes de RCF. Désormais, nous allons retrouver Christian Bruyen, président du conseil départemental de la Marne, mais qui est avec nous pour un tout autre sujet, puisque vous le savez, il va s'engager dans un nouveau combat, j'allais dire, politique. Toutes les explications, c'est avec Jean-Pierre Benoît.
Christian Bruyen, bonjour.
Bonjour à vous.
Rappelons que vous êtes maire d'Hiver Droite de Dormans depuis 2001 jusqu'en 2017 et vous êtes président du conseil départemental depuis 2017. Vous avez officialisé le 6 juin votre candidature aux élections sénatoriales fixées le 24 septembre. Alors cette liste, elle est quand même très diverse, très variée, elle représente beaucoup les territoires marnais.
Oui, bah écoutez, c'est ce que nous voulions, une liste qui soit issue de l'ensemble de la Marne. Alors, bon, effectivement, moi j'ai commencé ma carrière politique, entre guillemets, côté de Dormans, dans la vallée de la Marne, à l'ouest du département. Et puis, voilà, j'ai gravi quelques échelons. Aujourd'hui, président de département de la Marne, ce beau département qui m'a vu naître, et certainement que j'y aurai ma dernière demeure. Mais le plus tard possible. Et puis, en seconde position, Anne-Sophie Romani, qui est maire de Bazancourt. Donc, on est sur le pays plutôt rémois. Ensuite, Julien Valentin, qui est, on le sait, président de la communauté de communes de la Moivre à la Côle. Et donc là, on est sur le pays de Châlons en Champagne. Ensuite, en quatrième position, Florence Loiselet, qui est maire et elle est issue du territoire du Vitria, du Pertois. Et donc, elle est aussi conseillère départementale, comme Julien Valentin. Et puis, encore un conseiller départemental en cinquième position, parce que je crois que les conseillers départementaux ont déjà une bonne connaissance du territoire et des problématiques, des enjeux de ce département. Alors, ce sera donc Jonathan Rodriguez, qui est maire adjoint d'Épernay. Et donc, lui aussi représente un territoire. C'est à la fois le mélange de l'urbain, du rural, de toutes ces diversités qui constituent la Marne.
Si on est un peu familier, Christian Bruyen, on pourrait dire que c'est le club des cinq de la droite et du centre qui compte deux candidats, un LR et un UDI, mais trois qui ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est une liste relativement ouverte, mais qui est dans la continuité des sénateurs en place, Françoise Férat, Yves Détraigne et René-Paul Savary.
Bah oui, écoutez, c'est un sénateur sortant qui nous rendons hommage par rapport à l'engagement sans faille, j'ose le dire, qui a été le leur, une mobilisation au service de la Marne et de ses habitants. Je crois que c'est ça qu'on attend des sénateurs. Et donc, une liste qu'on va dire équilibrée et qui a des valeurs de la droite et du centre. Nous les assumons, mais en même temps, effectivement, il y a deux candidats qui sont encartés, les autres ne le sont pas, mais clairement, nous, on se situe dans la majorité sénatoriale conduite par Gérard Larcher aujourd'hui. Parce que Gérard Larcher, il a quand même montrer combien le Sénat, finalement, on s'en rend compte, notamment au travers des crises plus ou moins récentes que l'on subit dans ce pays, bien le Sénat, il a un vrai rôle à jouer et il est là pour porter la parole de ce qu'on appelle les grands électeurs, de ces citoyens qui sont engagés dans la vie publique et qui connaissent les enjeux du territoire, de tout le territoire.
Et surtout, Christian Bruyen, du fait de la loi du non-cumul des mandats, on s'est retrouvé à l'Assemblée nationale avec des députés qui n'étaient pas forcément ancrés dans les territoires, même s'ils le connaissent, ils vont dans leur circonscription. Le Sénat est apparu depuis plusieurs années comme un élément à la fois régulateur et sur lequel, j'allais dire, on allait s'appuyer pour réfléchir, pour faire des fameuses commissions d'enquête. Bref, c'est du sérieux. On a l'impression quand même que c'est l'image qu'on ressent en ce moment.
Oui, écoutez, voilà, par rapport à l'image qu'a pu avoir le Sénat, un peu faussée certainement, d'une assemblée plutôt vieillissante, écoutez, regardez la liste, moi effectivement j'ai 64 ans, mais je suis plus âgé et il y a des jeunes sur cette liste.
Anne-Sophie Romagny a 45 ans, Julien Valentin 44, bon, Florence Loiselet 59, vous avez quand même des gens relativement jeunes, avec 41 ans le Benjamin de l'équipe, Jonathan Rodriguez.
Tout à fait. Jeune, mais vous l'avez vu, expérimenté, avec une expérience d'élu local, dans des communes, diverses communes d'ailleurs, communes rurales tout autant que communes urbaines, des expériences au niveau intercommunal, des expériences au niveau départemental. Cette liste, effectivement, je crois qu'elle rassemble des candidats avec des expériences professionnelles tout à fait différentes. Moi, je viens du monde de l'éducation nationale, mais on a un agriculteur, on a des personnalités qui sont vraiment là avec cette capacité à entrer au Sénat et à faire en sorte que ce Sénat joue le rôle qu'on lui reconnaît aujourd'hui, à savoir, vous l'avez dit, une forme de régulation, parce que je crois qu'on en a tous un peu marre de ce centralisme au sein de ce Parlement, cette Assemblée nationale qui porte un discours assez unique, et puis le Sénat qui est là pour faire d'autres propositions, j'ose le dire, même si je suis pas dans la caricature, mais qui sont des propositions parfois simplement de bon sens. De bon sens parce que calé sur cette expérience qui est la nôtre.
Alors justement, Christian Bruyen, ça, c'est une dimension nationale. On a le sentiment qu'aujourd'hui, les politiques sont critiquées. Parfois même, il y a certains élus qui se font agresser, etc. Est-ce que finalement, dans la liste que vous proposez au sénatorial, c'est une liste qui rassemble toutes les Marnaises et tous les Marnais, c'est-à-dire le monde urbain, le monde rural, et en montrant votre engagement de proximité au quotidien? Vous n'avez pas approuvé cet engagement, puisqu'il est le vôtre depuis quand même pas mal d'années.
Oui, vous savez, en ce moment, la société, elle va pas forcément très bien. On le note effectivement avec des comportements qui sont certains tout à fait inadmissibles. Chacun joue son rôle. L'Assemblée nationale joue le sien, le Sénat joue le sien. Et effectivement, je crois que nous pouvons être considérés comme une sorte de force tranquille, mais qui fait des propositions. Et on l'a vu au niveau de la réforme des retraites, par exemple. Mais dans ce contexte un peu compliqué, je crois pouvoir dire que nous sommes des candidats qui pourront apporter de l'expérience, porter les enjeux des territoires
et de la Marne, auquel vous êtes attaché.
On travaillera toujours à cinq. On va travailler tous les cinq ensemble pour faire ces propositions et toujours en lien avec les élus locaux. Je me dis, écoutez, faites-nous confiance.
Merci.
Par rapport à ce que nous avons porté comme valeur jusqu'à aujourd'hui.
Merci infiniment.
En particulier, mais pas seulement, notamment les conseillers départementaux qui sont là en partenaire de proximité des collectivités locales et très attentifs aux fragilités des Marnaises et des Marnais.
Merci infiniment, Christian Bruyen. Faites-nous une promesse. Fin août, début septembre, on vous retrouve sur l'antenne de RCF. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Un grand merci à Christian Bruyen, merci également à Jean-Pierre Benoît que l'on retrouvera demain avec d'autres invités dans le magazine régional 17h48, bientôt 49 d'ailleurs, sur les ondes de RCF Reims-Ardenne et RCF en Champagne-Ardenne avec le DAB+.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Au moins un invité est avec nous par téléphone. Il devrait être plusieurs à se succéder au micro avec le Pélé VTT organisé par le diocèse de Reims et des Ardennes. Et c'est Jean-Florent, je crois, qui a le combiné pour l'instant en main. Bonjour Jean-Florent.
Oui, bonjour monsieur.
Bon, comment ça se passe ce Pélé VTT du diocèse de Reims et des Ardennes? C'est vous qui êtes le directeur de l'excursion?
Exactement, mais ça se passe très bien. On échappe de peu à quelques orages. Nous campons là ce soir à Pourrus-Saint-Rémy. Et donc nous parcourons les Ardennes, on est parti du sanctuaire de Neuvisy, et nous montons jusqu'à Saint-Valfroy. On y arrivera demain soir, et puis on fera une escapade au sanctuaire d'Aviotte aussi, dans la Meuse. Voilà, donc il y a 49 jeunes exactement, là, qui pèlerinent avaient été dans les Ardennes. J'en ai deux avec moi, Rose et Clément. Voilà.
Eh bien, on va pouvoir les retrouver d'ici quelques instants. Je reste quand même avec vous, Jean-Florent, pour d'apporter quelques précisions. Vous êtes parti quand de Neuvisy?
Donc, on est parti vendredi. Donc, on s'est retrouvés vendredi soir, tous ensemble, au presbytère, au sanctuaire, pour une petite veillée de prière avec les parents qui nous ont confié leurs enfants. Et puis, nous sommes partis samedi matin à vélo. Voilà. Tous les jours, on a la messe. Alors, soit sur le lieu du camp, soit dans une paroisse où on passe, où on est accueilli. On est passé aussi à Omicourt, à Maisoncelles, voilà, et puis...
Par hasard, vous n'avez pas fait étape chez Marie-Ange Turquet dans la journée, aujourd'hui?
Alors, elle nous a accueillis à Raucourt, exactement, pour la messe. J'étais très heureux là, de pouvoir célébrer dans cette belle église. Il y avait quelques paroissiens, et puis on a pu prendre le temps de célébrer la messe et la Saint-Benoît aujourd'hui.
Et vous aviez dit, Jean-Florent, une quarantaine de jeunes. Ce sont des jeunes qui ont quel âge à peu près?
Donc c'est des collégiens majoritairement. Il y a un petit jeune qui a 9 ans, mais qui a ses frères et ses cousins ici, donc il s'en sort très bien. Et puis il y a quelques lycéens aussi, voilà, jusqu'à 17 ans. Et le camp fonctionne avec deux systèmes d'équipes différents. Il y a les cordées qui sont les équipes de vie au camp, au bivouac, donc c'est-à-dire qu'il y a les services. Et puis il y a aussi le temps de réflexion. Cette année, il y a un thème qui nous nourrit, qui nous accompagne. Et donc cette année, c'est l'Eucharistie. Donc chaque soir, les jeunes se retrouvent en cordée avec un animateur pour méditer, pour parler de l'Eucharistie, de leur rapport à l'Eucharistie, et puis présenter les différentes manières de vivre l'Eucharistie. Donc nous avons eu la communion, la rédemption, la présence réelle, voilà, l'alliance nouvelle. Donc c'est des thèmes un petit peu compliqués qu'on essaye d'aborder de manière simple avec ces jeunes-là. Et puis il y a aussi pour les groupes de vélo, c'est des groupes par niveau, voilà, qui sont mixtes. Là, pour le coup, les cordées ne le sont pas. Il y a 5 groupes de niveau. Voilà, donc les plus vaillants, les plus sportifs dans le groupe 1, soit ils arrivent avant les autres et ils aident à monter le campement, soit ils font un peu plus de kilomètres et voilà, un parcours un peu plus accidenté pour satisfaire leurs besoins sportifs. Voilà, et chacun y trouve son compte, se demande quand même des efforts, même au meilleur et même voilà au moins sportif.
Et parmi les accompagnateurs, donc Jean-Florent, vous faites partie évidemment en tant que directeur, on a le père Maxime Labesse. Quels sont les autres que l'on pourrait connaître à travers les ondes de RCF là, pour nos auditeurs et auditrices?
Alors, il y a Jeanne et Camille qui sont deux jeunes qui sont deux jeunes d'ici, là, d'autour de Carignan et de Douzy. Ça fait plusieurs éditions qu'elle participe au PLVTT.
Mais dites-moi, ce sont les Ardennais, en l'occurrence les Ardennaises qui sont mobilisées là, quand vous me parlez de Carignan, de Douzy.
Donc le PLVTT a quand même a pris sa source quand même grâce à l'aumônerie Saint-Gabriel à Carignan, avec le père François Pinon. Donc c'est quand même, ça a rayonné aujourd'hui, ça rayonne dans le diocèse de Reims, voilà, grâce à ses paroisses et grâce aux Ardennes. Et c'est pour ça que traditionnellement ça se finit à Saint-Valfroy. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, les deux séminaristes du diocèse de Reims qui nous accompagnent, qui sont formés à l'abbaye de la Grâce. Ce sont deux religieux pour le diocèse de Reims qui sont là. En tout, ils sont trois dans cette abbaye du sud de la France, à Carcassonne, hein, qui nous accompagnent sur les routes. Il y a aussi Sébastien, un ancien du PLVTT, qui aujourd'hui finit ses études agricoles, qui lui, on va dire des Ardennes, mais voilà, des Ardennes plutôt proches de Reims. Il y a Joseph aussi, un ami du père Maxime, qui a fini ses études là et qui nous a rejoint pour la semaine.
Ça fait une belle équipe quand même tout cela, Jean-Florent.
Et alors je profite aussi pour présenter Alain et Martine, qui sont un couple de jeunes retraités qui assurent toute l'intendance et toute la cuisine pour ces jeunes. Et donc ils sont d'une aide inestimable en fait, parce qu'ils ils nous permettent d'avoir l'esprit tranquille quant à la logistique, à la nourriture, et ils nous gâtent beaucoup. Voilà, ils ont accompagné le PLVTT pendant de nombreuses années. Cette année, ils remettent ce service à d'autres. Voilà, si jamais je lance un appel comme ça, si jamais il y a un couple ou une petite équipe ou des personnes motivées pour nous aider dans la logistique, eh ben, écoute, ils seront les bienvenus.
Eh bien, l'appel est lancé, Jean-Florent. Vous ne restez pas très loin du téléphone, mais je crois que vous avez dit que vous avez deux jeunes qui sont à vos côtés, Rose et Clément, si j'ai bien pris les prénoms.
Exactement. Eh bien, tout à fait.
Lequel veut se lancer en premier ?
Eh bien, Rose, je vous passe Rose.
Eh bien, très bien. On y va avec Rose. Vous l'avez compris, 18h55 sur les ondes de RCF. C'est du direct. Rose, bonjour. On va faire connaissance en direct. Bonjour, Rose.
Bonjour.
Alors, Rose, dis-nous tout pour les auditeurs de RCF. Tu as quel âge ? Tu viens d'où ? Et ce pelé VTT, qu'est-ce que ça représente pour toi ?
J'ai 12 ans. Je viens de Coucy-le-Château. C'est dans l'Aisne.
Ah oui, là, tu viens de loin quand même pour faire ce pelé VTT.
Oui, j'avais 1h30 de route, mais ça va.
Bon, rassure-nous, t'es quand même venu au Pelé VTT en voiture, tes parents t'ont déposé, t'as pas fait le chemin à vélo.
Oui, oui.
Bon, ça va, tu as des forces pour cette semaine, alors.
Oui.
Qu'est-ce que ça représente, Rose, ce Pelé VTT ?
Mon frère était là l'année dernière et il était revenu hyper content, du coup, j'avais envie de le faire aussi.
Donc finalement, c'est l'occasion de faire du sport, mais aussi on imagine de partager des moments de spiritualité en communauté avec des jeunes de ton âge ?
Bah ouais, faire du sport et ouais aussi la prière beaucoup, ça... Enfin oui, c'est hyper sympa.
Et on avait Jean Florin, donc le directeur de ce Pelé VTT, qui nous disait il y a quelques instants, le thème cette année c'est l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça représente, Rose, pour toi, une jeune fille de 12 ans, ce thème, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Ça ça aide à mieux comprendre ce que c'est, parce que parfois ça peut être flou et puis
On imagine que vous prenez un temps, c'est ça, tous les soirs pour en parler avec les animateurs et puis les autres jeunes de ton âge ?
Ouais.
Alors comment ça se passe si tu nous racontes la journée type de Rose ? Comment ça se passe concrètement pour toi la journée ? C'est lever quelle heure et puis ensuite on part pédaler et raconte-nous ta journée.
On se lève à 7h30, après on démonte les tentes et on déjeune. Après parfois on fait la messe avant, après on part pédaler et puis on mange le midi, on revient. Après il y a le temps de cordée, les services, on mange. Et après, c'est le soir, la veillée, et on dort.
Eh bien, finalement, les journées passent super vite. Ça a l'air un programme super sympa. Merci beaucoup, Rose, d'avoir témoigné à l'antenne. Et je crois qu'à tes côtés, il y a Clément qui est avec nous également, si tu veux bien nous le passer. Merci.
Oui, je vous le passe. Merci, au revoir.
Au revoir, Rose. Une bonne fin de journée. Clément, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends très bien.
Bonjour, Clément. Merci d'être en direct avec nous sur l'antenne de RCF. Tu as quel âge ? Tu viens d'où ?
J'ai 15 ans et je viens de Haute-Marne, à côté de Chaumont.
Ah mais vous venez de loin, on parlait tout à l'heure des Ardennais, mais là venir de Haute-Marne, comment ça se fait que de la Haute-Marne, on vient faire un pelé VTT dans les Ardennes, dans le diocèse de Reims et les Ardennes ?
C'est grâce à mes cousins qui ont commencé avec mon frère, mon grand frère.
Merci les cousins.
Comment ?
Merci les cousins.
Oui, merci les cousins, parce que grâce à eux, j'ai pu avoir plein d'autres amis, profiter énormément, approfondir ma foi en Jésus, c'est vraiment génial.
Alors justement, avec toi Clément, c'est peut-être l'occasion d'aborder ce thème de l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça représente pour un adolescent d'une quinzaine d'années comme toi ?
Y a des mots qui sont très compliqués à comprendre. C'est pas si facile que l'on croit. C'est pas juste. C'est très compliqué à comprendre. Mais au fur et à mesure, avec les temps de cordée qu'on a tous les jours. Je trouve c'est super parce que ça nous permet d'approfondir plusieurs thèmes, puisque chaque année il y a plusieurs thèmes qui sont proposés, et donc grâce à ces thèmes on apprend plein de choses. Mais même pour moi, je trouve que concevoir une telle chose comme l'Eucharistie, c'est incroyable, c'est quand même compliqué à comprendre.
Eh bien, en tout cas, un grand merci pour votre témoignage. Clément, on vous dit déjà au revoir parce que vous le savez, en radio, on doit raccrocher ce qu'on appelle dans le terme. Et à 17h59, on rend l'antenne au réseau national de RCF. Merci d'avoir été en direct avec nous, Clément.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci vous également. Plutôt une bonne soirée à cette heure-ci, 17h59. Ainsi se referme le magazine estival. On se retrouve demain à 17h, 18h. Très bonne soirée. Toujours en compagnie des programmes de RCF. Voilà Fabrice, 8 secondes pour toi.